France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Le hasard nous conduit à vous soumettre deux initiatives qui relèvent de la musique, de sa pratique et des services qui peuvent lui être associés. Côté pratique, nous avons le bon exemple de l'Orchestre Symphonique en Résonance, basé en Seine-et-Marne et dont l'acronyme est OSER. L'orchestre ose justement réunir sous la direction de Frédéric Baudry, musicien professionnel et musicien amateur. Anne-Laure, qui va répondre à nos questions, est elle-même flûtiste amateur de cet orchestre. Reste à entrevoir les différences entre amateur et professionnel à ce niveau d'interprétation. La musique côté service, inédit exemplaire, est incarnée par l'application créée par Siri, l'artiste lyrique. Celle-ci s'appelle Anipo, A-N-I-P-O. Elle est la première plateforme qui vous évite d'acheter un instrument volé, puisque les vols et les reventes des instruments traditionnels comme modernes sont très nombreux. Avec l'application, les instruments reviennent, une fois détectés, à leur propriétaire. Outre ces annonces de vente, Anipo est aussi un blablacar, en quelque sorte, des instruments qui peuvent trouver un transporteur solidaire. Nous détaillerons ces services dans la deuxième partie des carnets.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Anne-Laure, je commence. Bonjour.
Bonjour.
Anne-Laure, vous avez différentes casquettes. Aujourd'hui, on va parler de ce beau chapeau que vous portez de flûtiste de l'Orchestre Symphonique en Résonance.
Oui, tout à fait. Donc, je suis membre de l'Orchestre Symphonique en Résonance, qui est une association créée depuis 4 ans maintenant, qui est composée d'une quarantaine de musiciens amateurs qui sont de haut niveau et de professionnels qui partagent tous le même amour de la musique.
Comment on combine le calendrier, l'emploi du temps de musiciens professionnels, musiciens amateurs? Les professionnels sont employés quasi à plein temps dans différentes formations et les amateurs, comme vous, ont un travail à côté.
Tout à fait. Alors nous rencontrons une fois par semaine, un soir dédié à sortir un peu de notre bulle professionnelle, de tous nous retrouver autour pour d'une œuvre, une grande œuvre, et nous travaillons donc un programme établi pour avoir après le privilège, la grande chance de le jouer en public près de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de voir arriver un grand orchestre symphonique au sein de leur village, de leur ville.
Ça s'apprend, le travail orchestral. Vous, en tant que flûtiste, comment vous êtes entré, comment vous avez approché ce travail orchestral?
Alors déjà, il y a la maîtrise de l'instrument qui se fait pendant de nombreuses années au sein d'un conservatoire ou de façon autodidacte. Et puis après, il y a des années de travail, de rigueur orchestrale. Mais avant de parler de rigueur, c'est aussi un immense plaisir et une grande communion d'être entre musiciens et de pouvoir travailler au mieux et produire un travail de qualité.
Parfois, vous vous retrouvez dans des lieux institutionnels, des auditoriums, des salles de concert, mais à d'autres moments, dans des centres commerciaux.
Alors, c'est pas forcément évident. Nous, la volonté de notre association, c'était vraiment de porter la musique dans des lieux isolés culturellement, des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'entendre et de voir des formations musicales d'une quarantaine de musiciens. Donc, nous le faisons au sein de petits villages ou de petites villes qui sont, bien que proches de Paris, plutôt isolées culturellement. Donc, nous déplaçons et nous allons jouer au milieu d'un parc le long de la Seine. On a eu la chance de jouer la symphonie pastorale de Beethoven. Et puis, on a aussi envie de toucher les gens qui font leurs courses. Peut-être ça va durer 5 minutes, ils vont passer, ils vont nous entendre et se dire « Tiens, un orchestre, qu'est-ce que c'est ?» Ils vont se poser des questions et essayer d'aller un petit peu plus loin.
Anne-Laure, vous voyez le Requiem de Mozart jouer dans une grande surface?
Non. Non, ça, en termes de logistique, c'est pas faisable.
Je dis le Requiem de Mozart parce qu'il est au programme de cette année.
Oui, cette année, donc on élargit un petit peu nos compétences et on va travailler avec chœur et avec des chœurs provinois. Donc on va monter le Requiem de Mozart et puis le jouer Avec grand plaisir aussi. Oui. Mais il faut déjà qu'on le travaille. On n'a pas commencé.
Oui. Il y a différentes exigences. La première, c'est, comme vous le disiez, c'est la mission que l'orchestre en résonance s'est donnée. D'ailleurs, l'acronyme, c'est oser. Il faut oser et porter la musique vers des publics qui n'ont pas l'habitude de se déplacer dans les salles de concert. Puis la deuxième, c'est aussi la qualité de l'interprétation. Parce que c'est bien beau de dire, on va vous jouer la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, mais il faut encore bien l'interpréter et avoir donc une réalisation de qualité.
Bien sûr, il y a le travail ensemble, une fois par semaine, une soirée par semaine. Il y a aussi du travail à la maison, où on prend son instrument, on prend des gammes, ses gammes, on travaille, c'est important, oui, parce que le public mérite aussi d'avoir une œuvre interprétée le mieux possible, avec cœur et aussi avec la technicité qu'il exige.
Ouais. Alors cette année, trois grands chefs-d'œuvre symphoniques. Vous l'aviez dit, la symphonie pastorale de Beethoven qui sera donnée le 6 février.
Oui, on a donc la symphonie du Nouveau Monde qu'on a commencé à travailler aussi, et donc Mozart aussi avec le Requiem de Mozart et un chœur, donc qui est aussi une partition. Exigeante.
Ouais. Allez suivre cet orchestre original, l'Orchestre Symphonique en Résonance, en tradeunionresonance.fr. Merci Anne-Laure.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
J'ai deux rendez-vous à vous proposer pour le mois de février à venir. Tout d'abord, et pour la première fois, le festival de BD non-fictionnel en Bretagne. Cette invention de l'association LAPACH, alors ça s'écrit P-A-C-H à la fin, consiste à mettre en avant ce formidable vecteur d'information qu'est la bande dessinée lorsqu'elle nous invite à comprendre le monde et notre société. L'association naît dans le but de créer des temps de rencontres entre auteurs, acteurs de terrain et grand public, organise donc son premier festival, La Vie en Bulle, les 5 et 6 février à Sainte-Hélène, siège de l'association. En effet, la page se traduit par la petite association culturelle hélénoise. Sainte-Hélène est située dans le sud du Morbihan, au bord de la riade d'Etel, où on élève des huîtres naturelles à tomber. Il y a une page Facebook pour cette association qui est bien humble, la petite asso culturelle hélénoise. Et puis un autre rendez-vous, puisqu'il faut tourner la page, comme aurait pu le chanter Nougaro. Je sais que c'est pas bien ce que je viens de dire, c'est un peu facile. L'association Jardino organise des sessions d'animation gratuites sur les techniques du jardinage éco-responsable en Île-de-France, à Nîmes, à Albi et à Dijon entre février et juin de cette année au sein de ces jardins collectifs. Cette opération est soutenue par l'Office français de la biodiversité. Il faut savoir que Jardino est la première association de jardiniers en France avec quelque 36 000 adhérents et elle s'accorde à agir pour protéger et préserver la nature. Son site, c'est Jardino, c'est O-T, jardino.fr. Cyril Gersten-Haber, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes artiste lyrique spécialiste du répertoire baroque. Vous êtes à l'origine d'une création d'une bouée de sauvetage pour tous les musiciens, toutes les musiciennes qui se voient perdre leur instrument. Leur perdre, c'est souvent voler. Et vous avez créé un hippo. Alors grâce à vous, je fais ma première leçon d'hébreu aujourd'hui. Un hippo veut dire « je suis ici ».
Oui, parce que j'ai cherché effectivement un terme pour ce réseau de musiciens qui se réunissent pour lutter contre le vol et le trafic des instruments. Et j'ai tout de suite pensé à un réseau qui devait être complètement international parce que les instruments passent les frontières très vite.
Je suis frappé par l'attachement, enfin, on l'imagine facilement d'un interprète à son instrument, mais chez vous, entre autres, une altiste a communiqué en disant « je me suis fait voler mon violon » et pendant un an, je n'ai pas joué.
Oui, l'attachement à l'instrument, c'est l'attachement à quelque chose qui n'est pas un objet, qui est plutôt représenté ou qu'on pourrait se représenter comme un animal domestique, un bijou de famille, quelque chose dans lequel on met énormément de transferts. Il y a beaucoup de musiciens qui parlent de leur instrument comme si c'était un membre de leur propre corps, beaucoup, beaucoup, comme si, en tout cas, ils disent tous ou très souvent que c'est un prolongement de leur propre corps. Et même certains peuvent le comparer à des enfants. C'est-à-dire c'est un attachement viscéral, complètement irrationnel, qui n'a rien à voir avec le fait d'un objet. D'ailleurs, Barbara disait « dans mon piano, c'est pas un objet, c'est mon piano ».
Oui. Il y a énormément de vols. Toutefois, il y a un numéro de série la plupart du temps sur les instruments.
Alors, il y a un numéro de série sur les instruments industriels ou semi-industriels, mais il n'y a pas de numéro de série sur pratiquement tous les instruments de luthier ou les instruments artisanaux. Il y en a très peu qui mettent des numéros de série, et notamment les instruments qu'on appelle les rois, c'est-à-dire les violons, les instruments du quatuor, les altos, où de manière traditionnelle, il n'y avait pas de numéro, et donc les luthiers aujourd'hui n'en mettent toujours pas. Et pour ces instruments, c'est plus compliqué, effectivement, avec un numéro de série. On peut les identifier très facilement. Avec sans numéro de série, c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais. Alors Cyril, ce que vous préconisez, c'est d'abord de prendre des photos de l'instrument.
Oui, il faut prendre des photos de l'instrument parce que Anipo, donc c'est Anipo, si je peux expliquer comment fonctionne le système Anipo, qu'on trouve sur le site www.anipo.org, c'est un système qui permet d'identifier un instrument à n'importe quel moment pour savoir s'il est volé ou pas. En fait, c'est une base de données auto-alimentée par ses utilisateurs pour identifier un instrument. Si l'instrument est déclaré volé, Anipo reconnaît l'instrument, indique à la personne qui vérifie qu'il est volé, met en lien immédiatement le propriétaire avec cette personne qu'il vérifie, elle envoie au propriétaire les coordonnées GPS par mail du lieu où est vérifié son instrument. Non pas grâce à quelque chose qui est à l'intérieur de l'instrument, mais simplement grâce au GPS du téléphone ou de l'ordinateur. Et bien sûr, cette personne qui vérifie l'instrument reçoit aussi les coordonnées du propriétaire. Donc c'est un lien entre tous les musiciens du monde, quel que soit où ils soient, pour restituer les instruments volés. Mais avant de les restituer, c'est surtout pour restreindre l'espace illégal de revendre des instruments volés. Parce que la majorité des instruments se font voler pour les revendre. Et plutôt que d'acheter un instrument sans savoir s'il a été volé ou pas, Anipo permet de vérifier si l'instrument est volé et d'acheter un instrument non volé. Et les moyens d'identification des instruments, c'est effectivement majoritairement les numéros de série. Mais quand ils n'ont pas de numéro de série pour les instruments du quatuor, c'est un système de 4 mesures qui sont comme un système qu'utilisent les luthiers ou les experts pour identifier des instruments et qui permettent de différencier les instruments de luthiers parce qu'il y en a quand même très peu qui ont exactement au millimètre près 4 mêmes mesures. Et après, il y a un système qu'on a mis en place et qu'on a pour le moment un peu mis de côté, c'est la reconnaissance des veines du bois qui agissent comme des empreintes digitales. Il n'y a pas deux bouts de bois qui ont les mêmes veines.
Cette application existe grâce au financement de la région Grand Est, hein, puisque Anipo a été fondée à Metz. Alors toutefois, où il y a quelques revenus potentiels pour vous, parce qu'il y a un énorme travail, c'est la vente d'étiquettes anti-vol à Nipo, qui sont très utiles, parce que déjà, ça signifie que l'instrument est répertorié, il est fiché, il est sur l'application, donc déjà, il est traçable.
Absolument. On sait, toutes les statistiques des systèmes de sécurité montrent que quand un objet est marqué, le vol diminue de 70 à 100%. Oui. Et on a pensé à ces étiquettes parce que la gendarmerie est venue nous voir en nous disant « c'est vraiment génial votre système parce que nous, sur 10 instruments retrouvés, on n'en restitue qu'un seul ». Donc on a fait faire ces étiquettes où on met non pas son nom ni son adresse, évidemment, mais un mail et un téléphone au cas où on perd de l'instrument et que des gens honnêtes, parce que ça existe, veuillent vous le restituer, mais aussi parce que c'est extrêmement dissuasif. Et donc, quand l'instrument est inscrit sur Anipo, on sait qu'il peut être identifiable et donc on le notifie par cette petite étiquette qui coûte 5 €, port compris, et qui est l'unique soutien d'Anipo parce que Anipo, c'est un système de solidarité, c'est un système entièrement gratuit et qui va le rester.
Anipo.org. Merci beaucoup Cyril.
Merci beaucoup Philippe, merci à vous.
Un mot sur le courrier d'Arnaud. Arnaud est nantais, mais sa proposition est sans frontières. Il dirige l'association Notre Sclérose, qui s'adresse à toutes les personnes touchées par la sclérose en plaques. Son association vient de créer un service unique, nous précise-t-il, un ovni dans le monde de la santé, à savoir une application Ma vie avec la sclérose en plaques, qui vous propose un parcours de soins personnalisé conçu avec des patients, des professionnels de santé des CHU. Cette application répond aux questions qu'on peut se poser lorsqu'on est concerné par cette maladie auparavant. L'association a créé une chaîne YouTube comprenant des vidéos de professionnels. Et puis depuis sa création, 2007, elle a collecté 700 témoignages dont on peut prendre connaissance sur le site mva.notresclerose.org. Merci à Joël Levert, merci aux techniciens, technicienne de France Inter et en particulier merci à Pauline Laverdure.